VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Idrissa Seydoudia et Morgane Guériec, bonsoir et bienvenue à l'édition du jeudi 18 juin 2015. À la une ce soir.
De nouvelles attaques de Boko Haram ont fait une trentaine de morts dans le sud du Niger. Le Tchad a bombardé des positions du groupe au Nigeria.
Une explosion a frappé la capitale burundaise cet après-midi, faisant plusieurs blessés. Nous ferons le point en direct avec notre envoyé spécial à Bujumbura.
Le dialogue politique a repris entre le pouvoir et l'opposition en Guinée.
Arrestation ici aux États-Unis du meurtrier présumé de 9 personnes abattues hier soir dans une église de la communauté noire de Charleston.
Le début du Ramadan a été marqué au Yémen par la mort d'une trentaine de personnes dans une série d'attentats à la bombe anti-chiite revendiqués par le groupe État islamique.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nouvelles attaques de Boko Haram contre deux villages de la région de Diffa, dans le sud du Niger. Des sources sécuritaires parlent d'au moins 30 morts. Pour sa part, le Tchad a fini par réagir. L'armée du pays affirme avoir mené hier des frappes aériennes au Nigeria sur des positions des islamistes de Boko Haram, en représailles au double attentat meurtrier commis lundi à N'Djamena. On fait le point avec Jacques Aristide.
Les raids conduits en territoire nigérian ont détruit 6 bases de Boko Haram et causé dans ses rangs de nombreux dégâts humains et matériels, indique l'état-major de l'armée tchadienne dans un communiqué publié ce jeudi, et d'ajouter que les forces de défense et de sécurité du Tchad vont traquer sans merci ces terroristes sans foi ni loi pour qu'aucune goutte de sang tchadien versé ne reste impunie. Il s'agit donc de la réplique du Tchad aux attaques perpétrées contre le commissariat central et l'école de police de N'Djamena. Attentats qui ont fait au moins 33 morts et une centaine de blessés et qui n'ont pas encore été revendiqués mais immédiatement attribués à Boko Haram. Autre annonce par les autorités tchadiennes dans le sillage de ces attaques, le port du voile intégral et du chèche cachant le visage est interdit depuis hier, le gouvernement invoquant des raisons de sécurité, une mesure dont l'entrée en vigueur coïncide avec le début du Ramadan dans ce pays majoritairement musulman.
L'accalmie n'aura pas duré longtemps. À Bujumbura, une explosion a frappé la capitale burundaise cet après-midi, faisant plusieurs blessés. Pour faire le point, nous avons en ligne notre envoyé spécial à Bujumbura. D'abord, bonsoir Bagassi, et que sait-on de ce dernier incident ? Bagassi ?
Oui, bonsoir Idrissa. L'information est... Il s'agit effectivement d'une grenade qui a été lancée sur un site de construction. L'attaque a eu lieu dans le centre de Bujumbura. On parle d'au moins 2 blessés. Un taximan qu'un collègue de la VOA ici a rencontré affirme avoir transporté les 2 blessés dans un centre médical. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en un mois, il y a eu plusieurs attaques à la grenade ici à Bujumbura. Le 22 mai, 3 grenades avaient été jetées au milieu d'une foule en plein centre de la capitale. 3 personnes avaient alors trouvé la mort.
Merci Bagassi Koura pour ces précisions. Donc c'était Bagassi en direct de Bujumbura. Nous reviendrons sur la crise burundaise en seconde partie d'émission.
Et nous restons dans la région, course à la présidentielle en Ouganda. Des partisans de Amama Mbabazi, candidat à l'élection de 2016, ont été arrêtés pour rassemblement illégal et campagne électorale hors de la période officielle. C'est ce qu'a indiqué la presse locale. Âgé de 66 ans, le Premier ministre limogé en 2014 se présente contre le président Yoweri Museveni. Et ses partisans ont commencé à distribuer des affiches et des t-shirts à son effigie. Mais la commission électorale n'a pas donné le coup d'envoi de la campagne, expliquent les autorités.
Reprise du dialogue politique en Guinée. Ce jeudi, l'opposition et le pouvoir s'étaient donné rendez-vous pour une nouvelle fois tenter de se mettre d'accord en vue des prochaines élections. Nicolas Pinault, il y a peu d'espoir tant les dissensions sont grandes entre les deux partis.
Oui, la réunion a débuté à 14h, temps universel au Palais des Peuples. Elle réunit tous les acteurs de cette crise politique guinéenne qui n'en finit plus quasiment depuis l'élection d'Alpha Condé en 2010. Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition, a confirmé à VOA Afrique la présence des opposants et de la société civile à cette rencontre. Côté gouvernement, le ministre de la Justice est présent, ainsi que le secrétaire général de la présidence et des membres de la mouvance présidentielle, surtout le RPG, la CENI et la communauté internationale participent aussi. Quelles sont les chances de parvenir à un accord? Elles sont quasi nulles, puisque dès l'ouverture de la réunion, Aboubacar Sylla explique que l'opposition guinéenne va faire de l'annulation du chronogramme électoral une question préjudicielle. Cela signifie que si les différents acteurs ne se mettent pas d'accord d'entrée de jeu, les opposants quitteront la table des négociations. On rappelle que pour le moment, la commission électorale prévoit d'organiser l'élection présidentielle le 11 octobre prochain en Guinée, suivie des élections locales en 2016.
Crise malienne, le gouvernement a levé les mandats d'arrêt lancés contre des responsables de la coordination des mouvements de l'Azawad, rébellion à dominante Touareg. C'est ce que rapporte l'AFP. Mesure d'apaisement prise à quelques jours de la signature prévue par les rebelles d'un accord de paix avec Bamako. L'identité des personnes concernées n'a cependant pas été précisée.
Lutte contre le terrorisme. En Somalie, les forces de sécurité ont déjoué un attentat à Adado, dans le centre du pays, tuant 3 des 4 assaillants de présumés islamistes Shebab. Le quatrième s'est fait exploser. L'attaque visait une conférence réunissant plus de 400 dignitaires, dirigeants et chefs traditionnels régionaux, discutant de la mise sur pied d'un nouvel état des régions centrales. Les assaillants ont tenté de prendre d'assaut le bâtiment, a déclaré à l'AFP un responsable des forces de sécurité.
3 fonctionnaires du consulat tunisien de Tripoli, enlevés le 12 juin avec 7 collègues par une milice armée libyenne liée à Fajr Libya, ont été libérés, a indiqué aujourd'hui la diplomatie tunisienne qui poursuit les négociations pour les 7 autres détenus. Une milice armée liée à Fajr Libya, le groupe contrôlant Tripoli, investit le 12 juin le consulat tunisien et enlevé 10 de ses fonctionnaires. Selon des médias et responsables tunisiens, la milice réclame la libération d'un de ses chefs, Walid Glib, détenu en Tunisie depuis plusieurs semaines. Ce dernier devait être expulsé vers la Libye dans les heures ou les jours à venir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le meurtrier présumé de 9 personnes abattues hier soir dans une église de la communauté noire de Charleston aux États-Unis a été arrêté. Claire Morin-Gibourg.
Fin de la vaste chasse à l'homme en Caroline du Sud. Le suspect, un jeune tueur blanc, auteur présumé du meurtre à caractère raciste de 9 personnes dans une église de Charleston, a été arrêté selon la police. Cet homme est suspecté d'avoir commis l'une des pires tueries motivées par la haine raciale depuis des années aux États-Unis. Une enquête fédérale a été ouverte en parallèle et en coopération avec celle des autorités locales, a précisé le ministère de la Justice. La désignation de crime raciste permet d'activer des moyens fédéraux supplémentaires. S'exprimant à la Maison-Blanche, le président Barack Obama a dénoncé cette attaque, précisant que son épouse Michelle et lui connaissaient le pasteur tué à Charleston.
It doesn't happen in other places with this kind of frequency. And it is in our power to do something about it.
Cela n'arrive pas en d'autres endroits avec une telle fréquence. Et nous avons la capacité de faire quelque chose à contrer cela. Et je le dis en étant conscient que la politique dans cette ville bloque ses possibilités, a déclaré le chef de l'exécutif américain. Le suspect a été identifié sur sa page Facebook. Il apparaît vêtu d'un blouson noir sur lequel sont accrochés l'ancien drapeau de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, symbole du régime ségrégationniste, ainsi que celui de l'ex-Rhodésie devenue Zimbabwe. Ces deux régimes sont très admirés aux États-Unis par les suprémacistes blancs.
Le ramadan a débuté dans la violence au Yémen, où le groupe État islamique a revendiqué une série d'attentats à la bombe anti-chiites, alors que la situation des civils s'aggrave de jour en jour, en particulier à Aden, dans le sud. Au moins 31 personnes ont été tuées hier soir dans la capitale Sanaa, secouées par 5 attentats simultanés commis à quelques heures du début du mois de jeûne musulman.
Le Vatican a publié une lettre du pape François disant que le réchauffement climatique est essentiellement causé par l'homme et que c'est l'un des plus graves problèmes d'aujourd'hui, Nathalie Barge.
L'encyclique de 191 pages publiée ce jeudi dit qu'un fort consensus scientifique indique que nous assistons actuellement à un réchauffement climatique inquiétant. L'humanité est appelée à reconnaître la nécessité d'un changement de mode de vie, de production et de consommation afin de lutter contre ce réchauffement ou au moins les causes humaines qui le produisent ou l'aggravent, peut-on lire dans la lettre du souverain pontife. Le pape Francis a également souligné l'importance de la lutte contre la pollution et la protection de l'approvisionnement en eau. Il appelle également à cesser l'utilisation intensive des combustibles fossiles, estimant que le système des crédits de carbone est totalement inefficace.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Timothée Donongmaï.
Peut-être bientôt le bout du pipeline pour les Nigérians. Les 4 raffineries du pays, à l'arrêt depuis 2 ans, reprendront leurs activités le mois prochain, a assuré aujourd'hui Oyi Alekbem, porte-parole de la NNPC, la compagnie pétrolière nationale que cite l'AFP. Si tout va bien, 445 000 barils de carburant devraient être produits quotidiennement, ce qui devrait soulager les Nigérians dans le pays, premier producteur africain d'or noir, connaît néanmoins d'importantes pénuries de carburant. Cette situation a amené l'État nigérian à subventionner le prix des produits pétroliers importés pour satisfaire la demande domestique. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a réautorisé les activités de 13 compagnies de transfert d'argent interdites en rapport avec l'attaque d'avril qui avait fait 148 morts à l'université de Garissa, à la frontière somalienne. Ces compagnies figuraient sur une liste de 85 entités accusées de liens avec les islamistes somaliens d'Al-Shabaab, responsables de l'attaque de Garissa. Le président Kenyatta a annoncé sa décision dans un message à la communauté musulmane à l'occasion du début du Ramadan. Enfin, bilan largement positif de l'avionneur américain Boeing au salon de l'aéronautique du Bourget. La compagnie basée à Seattle, dans l'État de Washington, a annoncé avoir reçu 331 commandes fermes pour ses appareils d'une valeur de 50,2 milliards de dollars. Sa rivale Airbus parle de son côté de 421 appareils commandés pour 57 milliards de dollars.
Voilà pour la Minute Éco. Merci à Timothée Donangmaï.
Plafond sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Copa América, coup dur pour le Brésil.
Un an presque après sa déroute contre l'Allemagne en demi-finale de sa Coupe du Monde, le Brésil a connu une nouvelle soirée cauchemardesque avec sa défaite contre la Colombie 1-0 et surtout l'exclusion de son capitaine Neymar. La Seleção est toujours en course pour atteindre les quarts de finale de la Copa América, mais elle est tombée de haut face à une très bonne équipe colombienne. Le Brésil, deuxième du groupe C, à égalité de points avec le Venezuela qui compte un match en moins et la Colombie.
Mondial féminin au Canada, on connaît désormais l'affiche des huitièmes de finale.
Un seul représentant africain, le Cameroun, qui affronte samedi la Chine. Hier, les Françaises ont giflé les Mexicaines 5-0. Victoire du Brésil face au Costa Rica 1-0. 2-1 pour la Corée du Sud devant l'Espagne. Et l'Angleterre qui domine la Colombie 2-1.
La finale du championnat d'Afrique féminin de volleyball.
Oui, ce sera mardi. Elle opposera les équipes du Kenya et de l'Algérie. Hier, en demi-finale, les Kenyans ont éliminé les Camerounaises en 3-7. Les Sénégalaises, s'y renversant depuis le début du tournoi, n'ont pas réussi l'exploit en demi-finale face à des Algériennes implacables. Les Maghrébines se sont imposées 3-0. En tant que finaliste de ce championnat d'Afrique, Algériennes et Kenyanes sont d'ores et déjà qualifiées pour la Coupe du Monde 2015 qui aura lieu au Japon.
L'ombre du dopage plane à nouveau sur le coureur de fond, Mo Farah.
Oui, le double champion olympique britannique, dont l'entraîneur américain est actuellement au cœur d'une enquête, ne s'est pas présenté à 2 tests antidopage avant les Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est ce que révèle le quotidien Daily Mail ce jeudi. Selon le journal, la star de 32 ans née en Somalie a manqué le premier contrôle début 2010, quelques mois avant de rejoindre à Portland l'écurie d'Alberto Salazar, qui est actuellement accusé d'inciter au dopage par les autorités américaines.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas. Nicolas Pinault que vous retrouvez dans Sporama les lundis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Sedoudia et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Burundi.
L'heure est au bilan après des semaines de manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La ProDH, une ONG luttant pour les droits de l'homme, compte 70 morts et plus de 500 blessés. Begesikoura, notre envoyé spécial, a rencontré Pierre Claverne Bonimpa, le président de la ProDH.
C'est à partir du 26 avril 2015 que les manifestations ont commencé. Mais depuis ce jour, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de violences, beaucoup de dégâts, parce que d'après les statistiques que nous avons inventoriées, nous avons déjà recensé plus de 70 personnes qui sont déjà tuées. Et nous avons recensé plus de 500 personnes qui ont été blessées. Et d'ailleurs, les uns se trouvent toujours au lit des hôpitaux. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. Et les uns se trouvent dans les différentes prisons du pays. Les autres croupissent toujours dans les lieux de détention de garde à vue, c'est-à-dire dans les corps de police, c'est-à-dire au service national de renseignement. Et il y a même ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays, raison pour laquelle on avait préparé, on avait lancé des manifestations pacifiques, mais malheureusement, nous avons vu que les corps de sécurité ont utilisé beaucoup de forces et que les manifestants n'en avaient pas, raison pour laquelle il y a eu beaucoup de dégâts jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé et soit d'arrêter, de suspendre ces manifestations pour protéger ces gens qui meurent chaque jour, mais nous avons opté de chercher, d'étudier d'autres stratégies de manifestation. Ce n'est pas à dire que les manifestations se sont arrêtées complètement, et nous allons arrêter ces manifestations dès que la solution du problème crucial qui est le troisième mandat.
Voilà, c'était Pierre Claverne Bonimpa, le président de la ProDH.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Que signifie l'affaire Omar El-Béchir pour les relations entre les systèmes judiciaires et les pouvoirs en Afrique? Le gouvernement sud-africain a-t-il violé la constitution en laissant le président soudanais quitter son sol alors qu'Omar El-Béchir est recherché pour génocide par la CPI? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Bénin s'évertue à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Un mécanisme de suivi a été initié par le gouvernement pour suivre les activités de chaque ministère impliqué dans les actions pour la réalisation de ces objectifs. Que retenir des efforts réalisés? Éléments de réponse dans ce reportage de Peggy Ludovic Dagba, notre correspondant à Cotonou.
1000 jours pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. C'est l'initiative trouvée par le gouvernement béninois pour redoubler d'ardeur et d'efforts afin d'approcher significativement les cibles des OMD encore à la traîne et consolider les acquis en la matière. Un cadre de suivi renforcé a d'ailleurs été mis en place par le ministère à la présidence de la République, chargé de la coordination des politiques de mise en œuvre des OMD et des ODD. Le directeur de cabinet de ce ministère, Jean-Claude Sourou-Keke.
Le suivi est un outil d'analyse, d'évaluation des performances et d'aide à la décision. Conscient de son importance, le ministère à la présidence de la République, chargé de la coordination des politiques de mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs de développement durable, en relation avec les 11 ministères clés OMD et le ministère en charge des finances avec l'appui du PNUD, a mis en place un mécanisme de suivi renforcé de l'initiative 1000 jours pour les OMD. Il s'agit pour nous de suivre et d'apprécier à l'aide d'outils statistiques et d'une application spécifique les performances des ministères clés OMD afin de partager les bonnes pratiques, d'identifier les contraintes et de leur apporter des solutions appropriées dans un cadre concerté.
Mais où en est-on avec la réalisation de ces objectifs du millénaire pour le développement au Bénin? Réponse de M. Alastair Alinsato, directeur de la coordination et du suivi des politiques des OMD au ministère des OMD et des ODD, les objectifs du développement durable.
2014 nous a permis donc d'exécuter, disons, quand je dis nous, je parle des ministères secteurs clés donc, qui interviennent sur les OMD, et environ 167 milliards, ce qui globalement équivaut à un taux d'exécution financière de 77%, contre un taux d'exécution physique d'environ 70%. Alors, il reste encore des marges de progrès puisque nous n'avons pas atteint les 100%. Alors, ici, il s'agit pour nous d'identifier et de recenser les différentes entraves qui ont empêché justement l'atteinte de l'objectif. Des objectifs qui sont de 100%. Il y a des marges de progrès et il faut qu'on se donne, se mette dans les conditions qu'il faut pour justement les exploiter.
Le Bénin, malgré tant d'acharnement, peut-il atteindre effectivement les OMD? Attendons de voir. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Les yeux rivés sur la Lune, plus d'un milliard de musulmans débutent le Ramadan ce jeudi. Ce mois de jeûne, de privation et d'abstinence est fixé en fonction du croissant lunaire. Et puisque l'on ne voit pas la Lune au même moment aux quatre coins du monde, certains fidèles ne se plieront au quatrième pilier de l'islam qu'à partir de demain. Au Sénégal, par exemple, où l'observation du croissant lunaire se fait à l'œil nu, la Commission nationale de concertation et d'observation du croissant lunaire a fixé à demain le début du jeûne. Il n'empêche, une partie des musulmans sénégalais débutent le Ramadan dès aujourd'hui, à l'imitation de l'Arabie saoudite, gardienne des lieux saints de l'islam, ou de pays voisins comme la Gambie ou la Mauritanie. Au Mali, la Commission nationale d'observation de la Lune a tranché dans le même sens, nous dit Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Quatrième pilier de la religion musulmane, le Ramadan signifie l'abstinence. Jeûner, c'est s'abstenir de boire, de manger, de lever au coucher du soleil.
Le mois de Carême, communément appelé aussi mois de Ramadan, est un mois béni que Dieu nous a offert. C'est pendant ce mois que les fidèles musulmans passent leur temps à implorer Dieu, à demander pardon, à prier. C'est un mois où les gens, les fidèles musulmans, respecte la religion. Donc pendant ces mois, on s'éprouve de tout.
Ainsi, le fait de s'abstenir de parler, voir et d'entendre est une forme de jeûne.
Moi, je m'appelle Sidi Labib, étudiant à mon niveau. L'importance du Ramadan, c'est d'abord se rapprocher de Dieu. De deux, connaître la souffrance dans laquelle les autres sont dans toute l'année, les gens qui ne trouvent pas à manger à leur faim. C'est la seule chose qu'on ne fait pas pour soi. On le fait pour Dieu. Dieu l'exige pour lui-même. On ne le fait pas pour soi, mais c'est pour Dieu. Donc tout musulman ayant la bonne santé, ayant la foi, doit jeûner. C'est un mois béni.
Pendant le mois de Ramadan, il est surtout nécessaire d'effectuer ces cinq prières obligatoires, de s'efforcer de les faire à l'heure.
Éviter tout ce qui peut nous amener à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et surtout que ce mois, c'est un mois béni, c'est vrai, je suis chrétien, mais je partage l'avis que les carêmes, comme c'est nous aussi les chrétiens, c'est un mois au cours duquel nous donnons vraiment la main, on fait le partage du quotidien. Je salue tous les musulmans et je suis vraiment très content que ce moment soit vu et accompagné par tout le monde et que nous soyons à mesure de nous supporter pendant ce mois de carême.
Le fait de jeûner est un moyen de penser à ceux qui souffrent de malnutrition dans la mesure où le croyant ressent dans sa chair ce que peut ressentir une personne qui a faim.
Ce mois de carême, c'est aussi un mois de partage, un mois de communion. Au cours de ce mois, un musulman doit aussi partager. Par exemple, si un musulman tient le moins et que tes semblables là n'ont pas le moins, donc Dieu a demandé à ceux que tu partages ce que tu as avec ces gens. C'est aussi un mois de prière, beaucoup de prières, où les gens font beaucoup de prières pour implorer le bon Dieu. Les musulmans vont passer un très bon mois de carême. C'est commencé aujourd'hui, c'est bien passé aujourd'hui au Mali.
Ainsi, le musulman sera-t-il en mesure d'accroître sa piété? Bon début de Ramadan à tous les fidèles musulmans du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés signale une augmentation extraordinaire du nombre de personnes déplacées à travers le monde par la guerre, la violence et la persécution. Les précisions de Lionel Gahima.
Dans un rapport publié aujourd'hui jeudi, le HCR estime à presque 60 millions le nombre de personnes forcées à fuir à la fin de 2014, alors qu'elles étaient 51,2 millions l'année précédente et 37,5 millions il y a une décennie. L'augmentation depuis 2013 est la plus importante jamais enregistrée en une seule année. Cette hausse majeure survient depuis début 2011, après l'éruption du conflit en Syrie, qui génère désormais le plus important déplacement des populations jamais enregistré à travers le monde. En 2014, chaque jour, quelque 42 500 personnes sont devenues des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des déplacés internes. Le haut-commissaire de l'ONU pour des réfugiés, Antonio Guterres.
The world became a mess.
C'est le grand désordre dans le monde et si les gens pensent que les travailleurs humanitaires peuvent y remédier, ils se trompent. Nous n'avons pas cette capacité. À travers le monde, un humain sur 122 est désormais soit un réfugié, soit un déplacé interne ou encore un demandeur d'asile. Pour M. Guterres, le rapport du HCR reflète l'état des choses dans le monde aujourd'hui.
It is time for the international community.
Il est temps que la communauté internationale assume non seulement ses responsabilités vis-à-vis des peuples, mais aussi des responsabilités pour empêcher ou trouver des solutions aux conflits qui causent tant de souffrances. C'est en Syrie que l'on compte le plus grand nombre de personnes déplacées et des réfugiés. Viennent ensuite l'Afghanistan et la Somalie. La Turquie, voisine de la Syrie, est devenue le plus grand pays hôte des réfugiés. La Grèce et l'Italie sont également envahies par des réfugiés voulant s'installer en Europe. Il est question au sein de l'Union européenne d'arriver à une meilleure répartition du fardeau. Concernant l'Afrique, le HCR écrit dans son rapport, souvent négligé, de nombreux conflits en Afrique, notamment en République centrafricaine, au Soudan du Sud, en Somalie, au Nigeria, en République démocratique du Congo et ailleurs, ont généré tous ensemble d'immenses déplacements de population en 2014. En proportion, ils sont à peine moins élevés qu'au Moyen-Orient. En tout, l'Afrique subsaharienne comptait 3,7 millions de réfugiés et 11,4 millions de déplacés internes, dont 4,5 millions d'entre eux ont été nouvellement déplacés en 2014. Le taux de 17% d'augmentation globale exclut le Nigeria car la méthodologie pour compter les déplacements internes a changé au cours de l'année 2014 et les statistiques ne sont pas fiables. L'Éthiopie a remplacé le Kenya en tant que le plus important pays hôte des réfugiés en Afrique et cette nation se classe au cinquième rang des pays hôtes à travers le monde.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Lionel Gahima. Présentation Idrissa Seloudia et Morgane Guériac.
À la console, Brian Marcoulier. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.